toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Cette semaine, nous parlons cinéma et séries avec Pauline Le Gall. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un essai intitulé « Utopie féministe sur nos écrans, les amitiés féminines en action ». C'est un essai passionnant à paraître dans quelques jours aux éditions Les Daronnes. En fin d'émission, on parlera avec le directeur artistique de la Nollywood Film Week à Paris, à l'Arlequin. Mais avant, nous vous emmenons à Marseille avec un premier film, un premier long métrage, « L'été, l'éternité » qui nous a bouleversés, soufflés. Et donc, on a eu tout de suite envie de rencontrer sa réalisatrice. Émilie Ossel, bonjour.
Bonjour.
L'été, l'éternité, c'est l'histoire de Lise, 18 ans. Lise et ses amis qui profitent de la plage et du soleil et puis de cette lumière marseillaise qui leur paraît éternelle. Mais voilà que lors d'un bain de minuit, Lola, une jeune fille du groupe, Lola qui est la meilleure amie de Lise, disparaît et puis soudain, tout s'écroule. Récit d'un deuil impossible et d'une reconstruction. C'est un film merveilleux parce qu'il nous montre un paysage changeant d'affects et d'émotions sur le visage de son héroïne, Lise, qui est remarquablement jouée par Agathe Talrich. Lise qui est tout à coup confrontée à l'irréparable, mais aussi à quelque chose qui va l'entraîner loin, bien loin, des rives de l'adolescence.
J'ai toujours aimé l'été. Et l'été de nos 18 ans, on s'était dit toutes les deux que ça allait être encore mieux que d'habitude. On aurait le bac, on serait libre. On s'était promis de faire plein de choses.
Hier, j'avais vraiment l'impression qu'on était... des dieux. Non mais c'est vrai.
Des dieux, carrément.
Oui. Ça aurait été trop banal qu'on couche ensemble.
Je pensais que tu me protégerais toujours. Parce que de nous deux, c'était toi la plus forte.
Lola ! Lola ! Lola ! Je m'en veux, en fait.
La bande-annonce de l'été, l'éternité, votre film, Émilie Ossel. Alors Lola, je le disais, c'est la meilleure amie, la sœur de cœur de Lise qui va disparaître en mer, donc mort sans cadavre, puisqu'on ne retrouvera jamais le corps. Et ce qui frappe tout de suite dans votre film, c'est que vous faites abstraction des parents, de l'enquête de police qu'on imagine, d'éventuelles cérémonies de commémoration. Donc vous faites abstraction de tout ça pour mieux suivre l'impact de cette mort sur le groupe. C'est presque une expérience de chimie pure.
C'est vrai que je voulais surtout m'attacher à filmer les sentiments de ces jeunes gens et tout ce bouleversement intime que produit cette disparition et du coup mettre ça aussi vraiment à hauteur de regard d'adolescent. En me focalisant sur ce royaume qui est ce groupe et ce monde et les endroits où ils traînent. Et donc, il n'y a jamais été question pour moi de filmer des parents ou d'avoir des scènes très réalistes, naturalistes, qui auraient été des funérailles ou encore. Et d'ailleurs, la mort est très, très énigmatique parce que finalement, personne ne cherche un corps. Il y a juste la mère qui, quelque part, avale cette jeune fille, quoi. Donc du coup, ça donne une sorte de dimension un peu presque mythologique à sa disparition, énigmatique.
Et en fait, ces adolescents, Émilie Ossel, ils sont confrontés à un drame qui est universel, mais on voit que chez eux, ça brise quelque chose de spécifique à l'adolescence, ça brise leur innocence, en
ouais,
fait.
Oui, alors c'est vrai que c'est un peu ce moment où ces moments de perte, parce que finalement, là, c'est un deuil, en l'occurrence, dans le film, mais ça aurait pu être n'importe quelle rupture ou séparation. Brutal, que ça soit une trahison amicale, même une rupture amoureuse ou une séparation parentale. Mais là, le deuil et la mort étaient plus fortes parce que, en effet, on se croit invincible et immortel à 18 ans. On ne pense pas que ce genre de choses peut arriver. Et quand ça arrive à un proche et du coup à un semblable, c'est très violent. Et du coup, tout s'écroule et le monde, toutes les certitudes disparaissent. Donc le groupe, petit à petit, se disloque parce que ne comprend pas et n'a pas les mots pour expliquer et pour se consoler. Et d'où il y a une sorte de bascule qui est le film aussi beaucoup entre le groupe, la trivialité, le bonheur, la joie, la simplicité d'être ensemble à 18 ans, justement, à la mer, à Marseille, se baigner, etc. Et une fois que la disparition a lieu, et ben c'est l'abéance de laisser par le vide, quoi, en fait.
Ouais, c'est comme un coup de couteau dans la toile du réel. Je crois qu'au départ, vous avez été très touchée, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, par un roman d'Emmanuel Bayamaktam, « Si tout n'a pas péri avec mon innocence ».
Oui, en fait, je commençais à avoir l'idée de ce film-là, « L'été, l'éternité », et je ne voulais pas écrire seule. Donc, un ami libraire m'a conseillé de lire « Si tout n'a pas péri avec mon innocence », qui aurait pu être le titre de « L'été, l'éternité », quelque part. Et donc, en le lisant, j'ai eu envie de travailler avec Emmanuelle, que j'ai contactée, et qui, elle aussi, travaille beaucoup sur l'adolescence et sur ce qui rappe un peu, ce qui est un peu rugueux là-dedans aussi, ce qui échappe. Et du coup, moi, qui ai une manière peut-être un peu plus romantique de traiter des émotions et des sentiments, voilà, je me suis dit qu'à nous deux, on arriverait à faire un alliage intéressant.
Pauline Le Gall, le film d'Émilie Ossel, vous l'avez vu, je crois.
Tout à fait, oui, je l'ai vu.
Et beaucoup aimé. Et il commence comme un teen movie. Et puis, ça part vers quelque chose de très profond qu'on voit rarement au cinéma, en fait.
Oui, c'est vrai. Moi, ça m'a beaucoup plu, justement, de voir de plus en plus d'amitié féminine, évidemment. Et puis, moi, l'adolescence, c'est un sujet qui me touche particulièrement avec l'amitié. Et là, j'ai trouvé que c'était beau de filmer, justement, cette amitié par l'absence, en fait. Du coup, on voit comment cette amitié perdure, même après la disparition. Et voilà, j'ai trouvé ça très beau.
Nous avons avorté, jugez-nous. Nous avons avorté, jugez-nous.
Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur qui me feront la loi. Biologie n'est pas destin et la loi de papa ne vaut plus rien. Mon corps est à moi et c'est moi qui sais si je veux ou pas mettre bas. Faire ce bas monde des enfants ou pas. Être plate ou ronde, j'ai le choix. Mon corps est à moi. Mon corps est à moi.
Pauline Le Gall, vous avez reconnu bien sûr cet extrait que vous citez. Hein. C'est un film que vous citez plusieurs fois dans Utopie féministe. Donc là, c'est Valérie Mérès qui chante « Mon corps est à moi » dans « L'une chante, l'autre pas » Agnès Varda, 1976. 15 ans de combat féministe à travers l'amitié de deux femmes, Pomme, donc Valérie Mérès et Suzanne, Thérèse Lyotard. On peut dire que c'est un peu en France la mère de tous les films féministes, non?
Oui,
en tout cas, de tous les films célébrant l'amitié féminine.
Oui, c'est vrai, et c'est aussi un peu une exception peut-être. Enfin, moi, en tout cas, quand je l'ai vu, j'en avais peu entendu parler. Alors, c'est peut-être une erreur de ma part, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un film qui n'est pas non plus extrêmement cité. Et je l'ai vu, je me souviens, pendant le premier confinement, on avait le temps de regarder beaucoup de films. Et ça m'a vraiment marqué de voir cette histoire qui mêle finalement la petite et la grande histoire, et qui mêle à la fois quelque chose que moi, je vois autour de moi, de l'importance de nos amitiés, et aussi de cette histoire de l'avortement qu'on raconte aussi peu. Bon, là, c'est vraiment aussi d'actualité, justement, d'en parler maintenant avec tout ce qui se passe aux États-Unis, mais enfin, il m'a semblé que ce film, il avait allumé quelque chose en moi de me dire finalement deux histoires dont je me sens parfois un peu dépossédée, à la fois celle de mes amitiés et puis celle de l'histoire des femmes et du féminisme en France et même dans le contexte international aussi.
Vous citez Varda dans le dossier de presse du film, donc en 76, vous n'étiez pas née. L'amitié des femmes entre elles est si rarement montrée au cinéma qu'on en arrive à croire que ceux qui font les films n'y croient pas, alors qu'ils croient dur comme fer à l'amitié des hommes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'amitié féminine qui menace le patriarcat ?
Oui, bien sûr. Enfin, c'est du moins un peu la conclusion que je tire dans le livre, c'est que je pense qu'on a eu tendance à dépolitiser justement nos amitiés, à les assigner un peu à l'intime. Ça s'est vu tout au long de l'histoire, non seulement du cinéma, mais aussi l'histoire de l'humanité, que voilà, nos amitiés, ça aurait été uniquement dans la sphère domestique, alors qu'en définitive, quand on... Enfin, je sais pas, je peux penser aux femmes qui ont mené un combat à Libis pour avoir des batignolles, pour avoir des droits.
Ou, elle était à Libis.
Voilà, exactement.
Donc, des femmes qui faisaient le ménage.
Tout à fait, des femmes de ménage, oui.
Pas correctement payées, c'est le moins
qu'on
puisse dire.
Tout à fait, et elles ont fait... Elles ont mené la grève pendant des mois et elles ont obtenu gain de cause. Et je pense qu'il y a quelque chose dans l'organisation des femmes qui est une amitié qui devient politique et qui dérange un peu les fondations du patriarcat.
Et est-ce aussi peut-être, Pauline Le Gall, parce que longtemps il n'y a pas eu beaucoup ou suffisamment en tout cas de femmes réalisatrices parce qu'elles n'accédaient pas forcément à ces postes. On en a beaucoup parlé dans de nombreuses émissions avec Elisabeth. Il y a un changement de paradigme, en tout cas on peut l'espérer qu'il soit durable depuis quelques années, mais pendant longtemps Agnès Varda était une des rares exceptions.
Oui, bien sûr, je pense qu'on peut voir qu'à partir du moment où les femmes commencent à faire des films, elles racontent leurs amitiés, puisque c'est quelque chose qui est central dans nos vies. Je ne vais pas généraliser ou essentialiser, mais en tout cas, toutes les femmes que j'ai autour de moi ont des amis et c'est des histoires importantes. Et évidemment, on voit que quand les femmes commencent à écrire des films, à réaliser des films, c'est des sujets qu'elles mettent très naturellement au centre de leurs histoires, assez naturellement.
Justement, les premiers films ou les premières séries montrant l'amitié entre deux femmes, alors qu'ils soient réalisés par des hommes ou des femmes, c'est un bouleversement du paysage audiovisuel américain qu'on les doit, grâce à la multiplication au début des années 80 des chaînes de télévision aux États-Unis. Donc il faudra quand même longtemps, plus de deux décennies, pour convaincre les patrons de chaînes que deux femmes, et a fortiori quatre, peuvent pulvériser le compteur.
Sont très importants. Répète-moi exactement ce qu'il t'a dit. On sort ensemble depuis deux semaines et demie. Je t'aime vraiment beaucoup. Et demain soir, après le dîner, j'aimerais qu'on ait un rapport anal. Bon, on s'arrête à l'angle de la 62e et Madison.
62e et Madison ?
On va chercher Miranda.
Oh non !
Si,
oh non.
Et ensuite on passera prendre Samantha.
Oh, Karine.
Tu vas avoir besoin de toute l'aide qu'on pourra t'apporter. Et puis j'ai rendez-vous avec Mr. Big.
Oh, c'est chouette.
Même du fond de son abîme de dépression, Charlotte restait optimiste.
Tout dépend à quel point il te plaît.
Je l'adore.
Oui, tu l'adores seulement pour quelques mois en attendant mieux ou tu l'adores au point de l'épouser et de tout quitter pour lui?
Je ne sais pas, je suis pas très sûre.
Tu ferais bien de te dépêcher de le savoir.
Arrête, tu me fais peur.
Très bien.
Tu de l'effrayer.
C'est le pouvoir le véritable enjeu. S'il emprunte ce passage, le pouvoir va changer de main. Soit c'est lui qui va prendre le dessus, soit c'est toi. Maintenant, il y en a qui pensent que c'est celui qui a le pénis qui détient le pouvoir. Et quand on conduit, on regarde devant soi.
Sex and the City, donc grande série hein, des années 2000, les aventures de quatre célibataires new-yorkaises, Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda, donc série culte hein, au même titre que Friends. Et même si vous écrivez, Pauline Le Gall, hein, que ces héroïnes ne parlent que d'amour ou de sexe et de Mr. Big, donc leur idéal masculin, voilà.
Un peu.
C'est une série qui a été féministe malgré elle, parce qu'elle a permis de faire émerger des thématiques qui, à l'époque, étaient pas si fréquentes.
Oui, bien sûr, ça a parlé déjà de sexe et de plaisir féminin, qui étaient quand même deux sujets dont on parlait peu. Ça a parlé aussi de penser la maternité autrement, parce que quand Miranda a un enfant, d'un coup, ses amis, en fait, deviennent un peu je vais pas dire des pères de substitution, mais du moins, elles font famille, toutes les quatre, de manière un peu différente de ce qu'on a pu voir à l'écran auparavant. Alors, évidemment, quand on dit féministe, on peut mettre beaucoup de bémols, hein, parce que c'était un féminisme qui était très blanc, très, très aisé. Et puis, il y a beaucoup de choses dans la série qui sont à revoir aujourd'hui avec un regard nouveau. D'ailleurs, il y a une nouvelle mouture de la série là, qui est sortie. Moi, je n'ai pas encore regardé, mais ils ont essayé, je crois, de corriger le tir à certains endroits. Mais oui, en tout cas, c'est une série qui a eu une importance capitale dans la manière de montrer les amitiés et de montrer ce que se disent les femmes entre elles aussi.
Pauline Le Gall, votre essai, il est très nourri. Hein. Vous citez des tonnes de films et de séries. Vous avez fait un travail de recherche aussi très important. La bibliographie est très, très consistante. Entre autres, on apprend que Gossip, qui donc veut dire ragot, est une sorte de transformation, de déformation, puisqu'au départ, ça voulait juste dire amitié féminine. Hein, donc, ça dit un peu tout de la menace que les hommes peuvent percevoir dans les amitiés féminines. Mais vous écrivez, et c'est surtout ça qui m'a intéressée, vous écrivez à la première personne, en partant souvent de votre expérience de spectatrice. C'était important. Vous citez, par exemple, la folle journée de Ferris Bueller, donc du roi du teen movie, John Hughes. Et vous dites que vous étiez envieuse de voir un héros masculin, justement, qui vit des aventures extraordinaires, et des amitiés aussi extraordinaires, alors que souvent, les amitiés de femmes, elles se cantonnent à la chambre à coucher.
Oui, c'est vrai, oui, j'avais envie, c'est ce qui est bizarre parce que je suis assez introvertie, mais j'avais quand même envie d'être Ferris Bueller sur le char à chanter Twist and Shout, bizarrement. Mais oui, écrire à la première personne, c'est quelque chose que j'ai toujours fait en marge de mon activité de journaliste parce que je crois beaucoup à un point de vue situé, en fait, à parler de là où on est, de notre condition, de nos privilèges, tout ça. Et du coup, bah, dans cet essai-là, ça me paraissait important de resituer d'où je parle et aussi... étant donné que j'explique justement qu'on a été un peu peut-être parfois dépossédé de ses amitiés, je trouvais que ça avait du sens de raconter mes amitiés, voilà, pour un peu aussi peut-être remplir un vide que j'avais ressenti moi et de faire un petit peu une connivence avec les lectrices et les lecteurs aussi peut-être.
Et surtout, ce que disait Varda, c'est qu'il y a des tonnes d'amitiés masculines au cinéma, hein, western, enfin tout le film de genre, etc. Et très peu d'amitiés féminines qui ne soient pas entachées par la compétition, la rivalité, etc. Vous, Émilie Ossel, est-ce qu'il y a des images qui vous ont manqué dans votre construction cinéphilique, au cinéma, dans les séries, ou au contraire, des séries ou des films qui vous ont marqué positivement ?
Bah, déjà, l'extrait que vous avez choisi de ce film d'Agnès Varda, c'est vrai que moi, quand je l'ai découvert il y a quelques années, j'étais complètement épatée parce que j'avais l'impression que ça restait un film majeur que les jeunes générations devraient continuer à voir, justement. Et donc, c'est un film qui m'a beaucoup impactée. Après, est-ce que j'ai manqué je sais pas trop. J'ai regardé des films d'hommes qui filmaient des femmes, comme Cassavetes, Bergman, Antonioni, qui ont pétri mes débuts de cinéphile, on va dire. Et puis après, j'ai regardé aussi plus des films de André Arnold, Naomi Kawase, ces gens-là, ces cinéastes femmes qui, du coup, filment des femmes et des hommes dans un rapport au monde qui, je trouve, aussi plus vaste, quoi, qui est dans un environnement et où, justement, il n'est pas seulement question de sexualité, de... Le rapport à l'intime, en fait, n'est pas forcément lié au sexe tout le temps. Et c'est quelque chose aussi qui est présent dans mon film, j'ai l'impression, où c'est un film qui est très basé sur une réflexion sur l'intime, l'intériorité et tout ça. Mais il n'y a aucune scène de sexe, finalement, dans le film. Et ça, c'est quelque chose qui est peu présent au cinéma, parce que j'ai l'impression que souvent aussi, les rapports féminins sont empêchés de grandeur ou empêchés par un rapport, justement, de consommation à... amoureuse ou quelque chose comme ça, alors que la puissance de l'âme ou la puissance de l'être, elle n'est pas forcément tout le temps liée à ça, quoi.
Alors justement, on va écouter un extrait de votre film. Donc c'est un magnifique dialogue entre Lise et Lola.
Et vous avez niqué ?
Non. Non, pas niqué.
Pourquoi ?
Je sais pas, ça aurait été trop banal qu'on couche ensemble. Ça aurait fait comme d'habitude, quoi. Genre, tu rencontres un mec et après, tu couches avec lui.
Vous avez pas de capote, quoi.
Si, on avait des capotes. Si.
Bah, il bandait pas, alors.
Si, il bandait. Mais je sais pas, c'était pas la peine. Ça aurait été une overdose. Parce que, je sais pas, c'est comme si, à partir du moment où on était que tous les deux, c'est comme si on faisait déjà l'amour, psychiquement.
Mais tu vas le revoir ?
Non.
Pourquoi ?
Si je le revois, ça va perdre de la valeur. De la première soirée. J'ai envie que ça reste exactement comme ça s'est passé. J'ai envie que ça reste intact. Puis si je le revois, qu'est-ce qui va se passer ? On va prendre un café.
Ah ouais ?
Je vais me rendre compte que c'est juste un mec, que moi je suis juste une meuf. Alors, hier, j'avais vraiment l'impression qu'on était... divin, quoi. On était des dieux.
Oh, Lola.
Non, mais c'est vrai.
Des dieux, carrément.
Oui. Ouais.
Des dieux. T'es vraiment chelou, ma vieille.
C'est vraiment chelou. Un extrait de votre film, Émilie Ossel, L'été d'éternité. Alors, on est au tout début du film, hein, donc c'est un dialogue entre Lise et Lola. Un dialogue, elle parle de sexe, mais c'est un dialogue fait de silence, de retrait. Elle parle de sexe, mais en fait, c'est pas racoleur du tout, parce qu'on est au cœur du plus intime.
C'est pas racoleur, et en même temps, le langage est cru.
Ouais. On l'a entendu.
Voilà, c'est... Et ça bascule un peu, c'est un langage en effet qui mêle du trivial, du littéraire, etc. Et oui, ben c'est ce que je disais tout à l'heure, cette envie de Lola, c'est ce personnage qui va disparaître aussi, et du coup c'est une figure qui porte quelque chose d'autre, de plus éthéré, d'un imaginaire un peu particulier. Elle est complètement dans la bande, mais peut-être qu'elle était
déjà ailleurs,
quoi. Elle est toujours un peu connectée à un ailleurs, quelque part.
Et comment on filme une scène comme ça ? Il y a beaucoup d'impro ?
Alors, c'est un film qu'on a beaucoup réécrit en improvisation pendant des semaines et des semaines de répétition. Et du coup, tous les dialogues ont été retravaillés avec les comédiens pour... qui est une justesse entre mon regard, ce que je voulais entendre et ce qu'eux pouvaient me proposer et comment eux se sentaient par rapport à la représentation de la jeunesse et de leurs sentiments, etc. Donc c'est beaucoup de construction en amont. Après, sur le tournage, il n'y a plus vraiment d'impro, mais il n'y a pas non plus de texte à apprendre à la lettre. Donc ça aussi, un peu comme ça, elles ont des points clés, il y a des phrases, évidemment, qui doivent être dites. Et qui sont du coup, c'est une sorte de partition, quoi. Il y a quelque chose de l'interprétation vraiment un peu musicale, quoi, entre elles.
Et vous parliez d'intemporalité tout à l'heure, ce qui est vrai, et en même temps, c'est très contemporain, on l'entend dans le langage. Et aussi, peut-être, dans les rapports garçon-fille.
Oui.
Qui sont très justes de ce qu'est l'adolescence actuelle, qui n'était pas le cas il y a 20 ans, même presque il y a 10 ans, peut-être.
Oui, ça, c'est vrai. Et hier, je présentais le film avec pas mal de jeunes gens de la bande. Et c'est vrai que c'est un film féminin, qui a des héroïnes. Et les garçons sont là, sont autour d'elles, sont avec elles. Ont des rôles majeurs quand même, mais c'est pas vraiment eux qui leadent. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de l'horizontalité des rapports, en fait, justement. La bande des plus jeunes, quand ils sont ensemble, il n'y a jamais de rapport de domination. Et la sensualité, elle est partout. Elle est entre tous les êtres, en fait, à tout moment aussi. Et donc, je pense que oui, il y a quelque chose qui a évolué, heureusement, depuis les années passées. Et c'est vrai que c'était quelque chose... je pense que c'est quelque chose qui est dans la jeunesse aujourd'hui aussi, dans une grande partie de la jeunesse aujourd'hui, où il y a... une circulation des affects et du pouvoir ou de la séduction, une manière d'être ensemble, ce qui est aussi beaucoup plus libre, en fait, justement, sans trop d'avoir d'impression d'être jugé physiquement, etc.
Et justement, vous parlez des acteurs. Alors, je crois que vous vouliez vraiment des acteurs de la région.
Bien sûr, moi, je vis à Marseille depuis une dizaine d'années et j'ai grandi aussi dans le sud. Et du coup, mon imaginaire est vraiment très lié à la Méditerranée, à la lumière là-bas. Et ce film est complètement inscrit géographiquement à Marseille. Et moi, ça me filmait des jeunes gens d'environ 18-20 ans. Il fallait que ça soit des jeunes gens de là-bas. Donc, on a fait un casting qui a duré une grosse année, avec beaucoup de non-professionnels, du casting sauvage, etc.
À la sortie des bars, des salles de théâtre, de concerts.
Ouais, sur des lycées, des concerts, sur la plage, etc. Et puis après, il y a aussi deux acteurs qui avaient déjà joué dans des films. Mathieu Lucci, qui avait joué dans L'Atelier de Laurent Canté, et Idira Zouli, qui avait joué dans Scheherazade. Deux acteurs qui avaient déjà fait du théâtre, Nina Villanova et Antonin Toto. Et Agathe Talry, Crostinbert, tous les autres, Lola, c'est Marcia, tous ceux-là, ils étaient beaucoup plus jeunes. Et du coup, ils avaient eu quelques expériences de théâtre, mais plutôt au lycée. Et certains, jamais, rien. Mais je voulais vraiment que les corps et les voix reflètent aussi cette manière de vivre et d'être ensemble et de vivre sa jeunesse au bord de la mer. En Méditerranée, c'est différent de Paris, par exemple.
Pauline Le Gall, dans L'été, l'éternité, le film d'Émilie, il y a des monologues très beaux. Le film est scandé par ces monologues face caméra où chaque personnage raconte un état intérieur. Souvent, ce sont des mots qu'on aurait aimé dire à un être cher disparu. Vous dites, Émilie Ossel, des mots clandestins.
Je trouve des paroles clandestines.
L'expression très, très belle. C'est rare de voir ça au cinéma.
Oui, c'est vrai, oui. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans le film, d'ailleurs. Enfin, justement, vous parlez de réalisme, et je trouve que c'est beau que ça, qu'on s'en éloigne à ces moments-là pour justement entrer dans leur psyché. Moi, ça m'a beaucoup émue, et puis voilà.
Et puis, il y a ce personnage incroyable, cette femme qui dirige la minuscule troupe de théâtre, qui est presque un personnage secondaire, et qui tout à coup passe au premier plan pour avoir une conversation incroyable. On ne va pas spoiler le film, bien sûr, mais ce sera un moment vraiment de transmission entre deux femmes. Et ça aussi, je trouve qu'on le voit rarement au cinéma. Ouais.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de la passation d'une jeune fille qui apprend de son aînée, qui n'a que quelques années de plus qu'elle, et qui, au départ, le personnage de Rita pouvait sembler un peu hostile par rapport à Lise, un peu méfiante, un peu arrogante. Et en fait, comme elle capte sa blessure... son intranquillité, petit à petit, elle va changer de manière d'être avec elle, jusqu'à une scène, en effet, où elle s'assoit et puis elle lui raconte une partie de sa vie. Et on comprend qu'elle a compris, sans que Lise ait eu besoin de dire quoi que ce soit. Et du coup, il y a quelque chose de la transmission d'un devenir. Ça devient aussi des jeunes femmes, c'est comme un peu le miroir l'une de l'autre. Rita, c'est peut-être celle que Lise deviendra plus tard, en quelque sorte.
Vous filmez la sororité, c'est une façon de mettre en image sans le dire.
Oui. C'est vraiment ça, quoi.
Pauline Le Gall, dans votre essai, vous parlez beaucoup de séries. Et on a presque, par moment, peut-être que je me trompe, l'impression que les séries, finalement, étaient plus hardies, plus riches que le cinéma. Je pense bien sûr à Girls de Lena Dunham, qui est une série presque culte. Et puis surtout, votre série préférée, Broad City. Donc, c'est une série qu'on a pu voir entre 2014 et 2017. Et vous allez nous raconter pourquoi cette série a été si importante. C'est l'histoire de deux filles fauchées dans une ville, New York, qui est bien trop chère pour elles. Et c'est une amitié indéfectible, qui pour le coup n'est pas du tout entachée de rivalité. Et on peut aussi parler de l'humour, qui est si particulier.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, moi, j'ai revu du coup Girls pour écrire cet essai. Et j'aime beaucoup cette série. Je pense qu'elle a fait beaucoup pour les séries télé, mais elle m'a beaucoup déprimée aussi. Je me suis dit, c'est quand même une série assez lourde. Et Broad City, ce que j'aime dans cette série, c'est justement, oui, cette amitié qui est inconditionnelle. En fait, il n'y a pas vraiment de rivalité entre les deux. Et elles ont une amitié presque un peu étrange ou... Enfin, très fusionnel et qui fait naître beaucoup de situations très absurdes. Alors moi, j'adore cet humour absurde, mais malgré tout, derrière cette potacherie, elles ont traité de tellement de sujets importants, aussi d'avortement, de santé mentale, de dépression. Et tout ça, c'est vraiment cimenté dans cette amitié qui est fusionnelle, qui est inconditionnelle et qui les aide dans plein de moments de leur vie. Et puis, je trouve qu'elles font naître des images aussi importantes. Comme la série se passe à New York, elles sont souvent en train de marcher dans la rue, toutes les deux. Et puis, il y en a une qui s'habille toujours très... très court, elle s'habille vraiment comme elle veut. Et puis, je sais pas, je trouve qu'elles font naître une vraie image de liberté, toutes les deux, qui naît de cette fusion, justement, amicale, qui retranscrit pour moi la manière dont on peut se sentir plus forte quand on est entre amis, quoi.
Et par rapport aux séries, vous ne trouvez pas que les séries ont été beaucoup plus... Enfin, ont joué un rôle bien plus libérateur et accompagnant.
Pionnier,
si
peut-être.
Pionnier.
Alors moi, j'adore le cinéma, donc je suis embêtée de dire ça, mais c'est vrai que oui, sur cette thématique-là, en revoyant beaucoup de films et beaucoup de séries, les séries ont fait plus aussi, peut-être parce que justement ça développe ses amitiés sur plusieurs saisons. Du coup, ça permet de mettre l'emphase sur certaines relations parce qu'elles peuvent se développer comme ça sur des arcs narratifs. Dans le livre, je parle de certaines séries comme une série qui s'appelle Shrill, par exemple. Voilà, l'amitié n'est pas le thème principal, mais malgré tout, au fil des trois saisons, elle met du temps à se développer, mais elle a la place de se développer, on va dire. Et c'est vrai qu'au cinéma, j'ai moins trouvé que cette thématique était très, très présente.
Mais même encore récemment, il y a une série comme Unbelievable. Enfin, je ne sais pas s'il y aura une saison 2, mais la saison 1, c'est quand même une enquête policière sur des viols menée par deux enquêtrices qui, au départ, sur un schéma assez classique, que tout oppose, etc., et qui vont réussir à faire équipe. Et ça, à ma connaissance, de films policiers avec une intrigue policière au cinéma. Deux femmes qui font équipe, enfin, voilà, c'est très très masculin.
Oui, ça c'est un imaginaire typiquement très masculin, tout comme quand Thelma et Louise est sortie, ça reprenait un peu le road movie des hommes, mais avec des femmes. Là c'est pareil, oui, c'est la série policière habituellement, même une série récente comme True Detective, c'était deux hommes bien bourrus qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions et qui vont un peu se décoincer pendant toute une saison, mais ça c'est vraiment une thématique assez masculine habituellement.
Where are you going?
Fresno?
We've been seeing you all over the place. Why don't you take off those shades? I want to see your eyes.
Yeah, I've been seeing you too.
Yeah, we think you have really bad manners. Yeah, where do you get off behaving like that with women you didn't even know? Huh? Huh? How'd you feel if somebody did that to your mother? Or your sister? Or your wife?
Huh? What are you talking about?
You know good and damn well what I'm talking about.
I mean, really? That business with your tongue? What is that? That is disgusting.
And oh my God, that other shit pointing to your lap. I mean, what is that supposed to mean exactly, huh? I mean, does that mean pull over? I want to show you what a big fat slob I am?
Yeah, does that mean suck my dick?
You women are crazy.
You got that right. We think you should apologize.
I ain't apologizing for shit.
You say you're sorry.
Fuck that.
You say you're sorry, or I'm gonna make you fucking sorry.
Oh, Jesus.
I bet you even called us beavers on your CB radio, didn't you?
Yeah, sure did.
Damn, I hate that. I hate being called a beaver, don't you?
You gonna apologize or what?
Fuck you!
I don't think he's gonna apologize.
Nah, I don't think so.
You don't apologize or what? C'est un extrait de Thelma et Louise, Ridley Scott, 1991. Donc Thelma et Louise, Jenna Davis et Susan Sarandon sont sur la route et on vient de l'entendre, règlent leur compte à un camionneur qui leur a fait des avances obscènes. C'est un moment particulièrement jouissif du film. Racontez-nous ce qui se passe, Pauline.
Et ben en fait, typiquement, là, je trouve que cette scène, elle est très révélatrice parce que elle retourne un peu le rapport de force finalement et elle décide de reprendre le pouvoir, en fait, de mal parler à un homme, ce qui ne se fait pas normalement, j'imagine, dans la société patriarcale. Du coup, voilà, c'est.
Et elles font littéralement exploser son camion.
C'est ça.
On vient l'entendre. Alors, c'est vrai que le road movie, c'est pas un genre féminin. Au départ. Déjà, en cela, le film était révolutionnaire au début des années 90.
Oui, c'est ça, normalement. Déjà, parce que c'est plus dangereux pour des femmes d'être sur la route, forcément. D'ailleurs, on le voit dans le film, c'est même là tout le principe. Du coup, et puis il y a cette histoire du Grand Ouest américain, c'est vraiment un imaginaire très masculin, des pionniers. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très masculin dans cette idée du road movie. On parle beaucoup de Ridley Scott qui a réalisé le film, mais je trouve que c'est important de rappeler que justement c'est écrit par une femme, Kali Khoury, parce que à la base justement elle voulait réaliser le film, mais elle pourra pas parce qu'elle est pas connue, c'est son premier film. Voilà, je trouve que c'est aussi important de rappeler que justement cette histoire-là, elle est écrite par une femme avant tout.
Pourquoi ça a été, selon vous, un film culte ou en tout cas qui a bouleversé des générations de femmes? Encore aujourd'hui.
Bah, c'est intéressant de voir ça parce que les hommes, par contre, n'ont pas aimé ce film quand il est sorti, bizarrement. Justement parce qu'ils y voyaient une apologie en fait, de la violence, alors que les femmes, elles y ont vu quelque chose de très cathartique, finalement.
Mais ça peut être assez subversif, justement.
Oui, voilà, exactement. Bah, la violence...
À l'époque.
Oui, à l'époque et même toujours, la violence des femmes, c'est quelque chose de tabou encore aujourd'hui. Donc, du coup, je pense que les femmes, elles y ont vu quelque chose de très cathartique. Et il y avait quelque chose aussi que les femmes comprenaient dans le film, que les hommes peut-être ne saisissaient pas, que c'est deux femmes qui ont été victimes d'abus. Enfin voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites dans le film, qui sont un peu un langage... Peut-être un langage un peu secret, où je pense que les femmes se sont beaucoup reconnues. Il y a un très beau livre de Martine Delvaux qui s'appelle Thelma, Louise et moi, et où elle raconte justement, elle, son rapport au film. Elle raconte qu'elle l'a vu plusieurs fois, et puis elle écrit sur la manière dont ce film a évolué avec elle. Voilà, je le recommande.
Et en même temps, donc, ça reste un film culte, et en même temps, quand on le revoit, ça se termine mal.
Oui,
mal. Je veux dire... bien ou mal.
Oui, mais oui, c'est sûr.
Elles ne repartent pas, elles ne reviennent pas à la vie. Quoi.
Non, c'est sûr. Après, en même temps, il y a ce plan qui s'arrête comme ça. Et du coup, c'est très beau aussi. C'est quelque chose... Bah, ça peut me faire penser aussi au film de l'été éternité où il n'y a pas vraiment... Enfin, moi, quelque part, je me suis dit le fait qu'il n'y ait pas de cadavre dans ce film, ça laisse quelque chose d'ouvert un peu, enfin, une porte ouverte. Et dans Thelma et Louise, j'ai l'impression que ce plan final de la voiture qui ne s'abîme pas, en fait, qui va juste s'envoler comme ça, ça a quelque chose d'assez... Enfin, j'aime bien les portes ouvertes au cinéma comme ça.
Il y a quelque chose de la puissance quoi, dans ce plan final, justement.
Oui, voilà, c'est ça. C'est un moment suspendu, on ne sait pas. Enfin, c'est quand même un geste très beau qu'elles font, même si tragique aussi. Et puis, à se baiser avant.
C'est un geste de liberté.
Voilà, c'est ça.
On le vit comme ça quand on le voit.
Oui, c'est ça, oui.
Merci. Merci à toutes les deux, Pauline Le Gall et Émilie Haussel. Vous restez un peu avec nous. On termine cette émission avec le journal du cinéma et avant, l'un de vos titres préférés, je crois, Pauline Le Gall, Dreams des Cranberries. Petit journal du cinéma avec vous, Sophie. Petit journal qui commence avec un hommage à une reine de la nuit, meneuse de revue, chef d'entreprise, chanteuse, mais aussi comédienne, morte dimanche dernier à l'âge de 92 ans.
Et oui, je veux parler bien entendu de Régine.
Bon, t'es une grande fille, tu vas jusqu'où tu veux. Ta carte blanche, c'est ça. On t'embrasse.
T'étais qui, ça?
Natacha. Ton poulain récalcitrant l'a invité à dîner. C'est une affaire qui roule.
Si seulement tu pouvais connaître les chevaux comme tu connais les hommes, toi, le quartier de demain, ça serait dans la poche.
Mais voilà, j'ai jamais couché avec des chevaux.
Voilà, Régine, on la connaissait, patronne de discothèque, chanteuse, hein, notamment les Petits Papiers ou de la Grande Zoa, mais elle avait également joué la comédie au cinéma, comme dans Les Ripoux de Claude Zidi, dont on vient d'entendre un extrait. Elle y jouait une ex-prostituée. Elle a souvent interprété son propre rôle à l'écran ou fait des caméos. Régine avait toutefois obtenu le premier rôle d'un film, Sortie de secours, un drame méconnu de 1970. Sa dernière apparition, ce fut à la télévision en 2014 pour la série Scènes de ménage.
Côté cinéma français, le collectif 50-50, hein, dont on a souvent parlé dans cette émission, se déchire.
Et oui, alors on connaît.
C'est bien triste.
Bah oui, très triste. On connaît le travail, on valorise le travail de ce collectif de femmes professionnelles du cinéma qui bataille depuis notamment la vague MeToo pour qu'une véritable égalité homme-femme soit en vigueur dans le milieu du 7e art. Pour que les règles qui régissent les rapports humains sur les tournages soient bien appliquées et soient décentes. Et bien, le conseil d'administration du collectif 50-50 a démissionné suite à un scandale d'ordre sexuel. La comédienne Nadège Bosson-Diagne accuse d'actes de gestes racistes et d'agressions sexuelles la productrice Juliette Favre-Renaud. Sans attendre le procès prévu en septembre, les membres du collectif se divisent entre celles qui plaident la présomption d'innocence et les autres, le soutien inconditionnel à la victime. Voilà,
affaire à suivre,
mais en attendant donc un collectif à la peine.
Et on termine l'émission avec la Nollywood Film Week qui se tient à Paris, à l'Arlequin, dans le 6e arrondissement et jusqu'à dimanche. J'ai pu joindre cette semaine son directeur artistique, Serge Nocoué. Bonjour Serge Nocoué.
Bonjour Elisabeth.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des films que vous montrez, des invités que vous allez recevoir ou que vous avez déjà reçus d'ailleurs pour cette 9e édition ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le maître mot, on va dire, c'est un peu la diversité, parce que on parle, les festivals s'appellent toujours Nollywood Week, mais aujourd'hui, il y a quand même plus de pays qui sont représentés. Nollywood, à la base, c'est donc le Nigeria, c'est des films qui viennent du Nigeria. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, Nollywood, en tant que philosophie, finalement, c'est quelque chose qui fait tache d'huile. C'est quelque chose qui se répand à travers le continent africain et même au niveau de la diaspora.
Tache d'huile ?
Donc, on a voulu...
Ça voudrait dire quoi ?
Ça voudrait dire que dans d'autres pays, on se met à produire de la même façon qu'on le fait au Nigeria. Ça veut dire qu'il y a une approche plus directe de la production, parce que c'est quand même quelque chose qui qualifie un peu l'industrie de Nollywood, c'est-à-dire de tourner assez rapidement, de mobiliser des moyens financiers, et même s'ils n'y sont pas, mais on y va quand même. Cet état d'esprit, on le retrouve aujourd'hui dans d'autres pays que Nigeria, et cette créativité également, et du coup c'est ce qu'on a voulu montrer aussi à travers cette édition.
Serge Nocoué, vous avez fait des statistiques sur les éditions précédentes, et alors c'est très intéressant, on voit que votre public, non seulement il est majoritairement féminin, mais très majoritairement, je vois 84% de femmes, c'est énorme.
Oui, c'est vrai que ce type de contenu est plébiscité quand même par les femmes, ça c'est vrai. Ça ne veut pas dire que les hommes n'aiment pas ou ne regardent pas, mais le public est essentiellement féminin, non seulement dans les salles, mais aussi sur les réseaux sociaux, ceux qui viennent se renseigner un peu sur les films, sur les différentes stars, etc. Ce sont souvent des femmes, ce qui est plutôt positif, et de toute façon, ça entraîne aussi les hommes dans ce mouvement, donc on ne s'en plaint pas.
On l'espère. Alors, Nollywood, pendant longtemps, ça a fait rêver. Hein. C'était une industrie qui était, quand j'ai dit en plein boom, c'était presque un boom exponentiel. Est-ce que vous qui avez justement tout ce recul, Serge Nocoué, comment ça a bougé ? Est-ce que la pandémie a fait bouger les lignes ? Est-ce que ça s'est transformé ? À quoi ça ressemble aujourd'hui, Nollywood ?
Alors aujourd'hui, Nollywood, ça passe essentiellement maintenant par le streaming. Il faut dire ce qui est. C'est vrai que la pandémie a accéléré ce mouvement vers les plateformes qu'on connaît tous et qu'on n'est pas forcément obligé de citer ici. Mais c'est vrai que ces plateformes ont maintenant un rôle plus prépondérant dans l'industrie du cinéma d'Hollywood parce qu'elles investissent aussi en amont. Il n'y a pas très longtemps, elles ont commencé à acquérir des films et maintenant, elles coproduisent avec les producteurs nigérians et au-delà de ça, donc africains de manière générale. Donc il y a vraiment un mouvement intéressant qui fait qu'il y a plus d'argent, plus de ressources dans la production actuellement sur le continent. Et ça va être intéressant de voir un peu l'évolution de ce modèle. Parce que du coup, on rentre vraiment dans une nouvelle ère avec cette plateforme du streaming aujourd'hui.
Merci beaucoup, Serge Nokwe. Je rappelle que vous êtes le directeur artistique et le cofondateur de la Nollywood Film Week. Donc, c'est à Paris, au cinéma L'Arlequin, jusqu'à dimanche. Et ça existe aussi en ligne pour les fans de cinéma nigérian du monde entier. Merci à vous.
Merci, Elisabeth. Merci beaucoup.
Émilie Haussel, Pauline Le Gall, merci. Merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Merci.
Émilie, je rappelle le titre de votre merveilleux film, L'été, l'éternité. C'est en salle depuis ce mercredi. Pauline Le Gall, vous, c'est pour dans quelques semaines. Votre livre sortira le 27 mai aux éditions Les Daronnes. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la place et l'importance des amitiés féminines au cinéma et dans les séries. Difficulty and I'm biting on my tongue and I keep stalling and keeping it together. People around gotta find something to say now. Holding back every day the same. Don't wanna be a loner. Listen to me, oh no. I never say anything at all, but with nothing to consider, they forget my name. Aim, aim, aim. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'll miss the catch if they throw me the ball. I'm the last chip standing up against the they call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. Les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation David Brocouet.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma, avec Serge Bozon qui réinvente le mythe de Don Juan avec Tahar Rahim et Virginie Efira. Et d'ici là, bonne semaine à tous.